Vous écoutez
RMC.
RMC.
6h-7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
Eh bien, c'est parti. Nous sommes le 3 octobre 2020. Grand bonjour à vous toutes et à vous tous. Merci d'avoir choisi RMC. Merci d'être là en ce samedi matin pour ce week-end des experts. Avec, comme d'habitude, vos rendez-vous que vous connaissez. Tout à l'heure, la vie numérique avec Raphaël Grabli, entre 9h et 10h. On va parler de vin avec Raphaël. Et oui, quand le vin côtoie les nouvelles technologies. Vous savez que grâce aujourd'hui aux applis, aux smartphones, on peut vous aider à retrouver un bon vin. Il y a aussi des systèmes pour déguster son vin grâce aux produits connectés. Enfin, plein de choses hyper intéressantes. Et puis, bien sûr, toutes vos questions vie numérique avec Raphaël tout à l'heure entre 9 et 10. 8-9, ce sera la forme, la santé avec le docteur Christian Ekia. On va parler du goûter équilibré. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans nos enfants, dans leur cartable avant qu'ils partent à l'école le matin, le goûter idéal suivant, selon Christian Ekia. Et puis en deuxième partie, on évoquera la viande. Est-ce qu'on mange trop de viande? Et peut-être avez-vous suivi cette actualité. Aujourd'hui, il y a des substituts à la viande étonnants, avec des saveurs, des textures qui ressemblent à la viande et qui n'ont aucune protéine animale, qui sont à base de protéines végétales. On en parlera tout à l'heure. Et qu'en pense aussi Christian Ekia? Ce sera entre 8 et 9. 7-8, ce sera la maison avec Christian PC, avec un invité exceptionnel, puisque Emmanuel Wargon, ministre du Logement, sera avec nous au téléphone pour s'exprimer sur les aides à la rénovation énergétique. Vous savez qu'il y a un plan ambitieux de rénovation du logement qui a commencé le 1er octobre. On en parlera donc avec la ministre et puis avec des experts. Et vous saurez si vous avez droit à des aides, si vous désirez rénover votre maison. Ce sera tout à l'heure entre 7h et 8h et ça s'annonce bien évidemment très intéressant. Mais pour débuter, c'est le jardin, bien sûr. 6h, 7h sur RMC. Patrick Mulan est fidèle au poste. Bonjour Patrick.
Bonjour François, bonjour à tous. Très très bienvenue au jardin qui a effectivement eu de la pluie. Il y a des régions où c'est très très bénéfique, il y en a d'autres, il y en a peut-être eu un peu de trop à la fois, oui c'est sûr.
Oui c'est ça, hein. Alors peut-être qu'on pourra en glisser un mot tout à l'heure, hein, avec évidemment cette pluie qui est tombée dans la région parisienne, qui est plutôt positive, et puis aussi la pluie qui peut avoir des dégâts monstrueux dans le sud, on l'a vu. Quelles conséquences, tiens, si j'ai une maison dans le sud, avec toute cette eau qui est tombée, peut-être qu'on pourra en parler tout à l'heure quelques secondes. Au menu de cette heure dédiée au jardin, Patrick, la forêt, les arbres et leurs bienfaits, ce sera notre dossier de ce samedi.
Voilà, là on dépasse un tout petit peu le cadre du jardin, mais c'est important de voir que les forêts contribuent de façon considérable à la qualité de notre environnement et qu'on peut considérer que dans des régions où il y a une densité de population avec des jardins qui sont plantés de façon un peu dense, on crée un effet un peu similaire. Mais il y a aussi cette mode aujourd'hui, donc de la promenade en forêt et même du shirinyoku. Ça vous dit quelque chose, le shirinyoku ?
Le shirinyoku.
Vous savez, c'est le fait d'enlacer les arbres et d'essayer de se fondre intellectuellement et physiquement avec la force des arbres.
Eh bien, dites-moi.
On évoquera ça.
C'est bien beau.
Oui.
Et vous y croyez-vous à ça, au shirinyoku ?
Non, moi je suis extrêmement dubitatif, mais il est vrai quand même. Non, mais ça dépend le côté exacerbé,
oui, bien sûr,
que vous avez personnellement. Mm-hmm. Mais globalement, je pense que chacun d'entre nous, quand il se promène en forêt, à la fois par la magnificence des arbres, mais aussi par l'ensemble de ce que ça donne, ça fait du bien.
On parlera aussi de la forêt française. Hein. Peut-on s'acheter, tiens, une forêt? Est-ce que c'est rentable? Enfin, toutes ces questions. À tout moment, vous pouvez joindre Patrick, vous le savez, le 3216, l'appli RMC Direct Studio, on est en direct avec votre smartphone, vous pouvez poser votre question en nous laissant votre numéro de téléphone. Notre conseil de l'expert aussi, on va parler de terre de bruyère et de plantes de terre de bruyère dans une minute. Mais pour débuter, place à vos questions donc, on accueille avec plaisir Christophe pour ouvrir le bal. Et je vais demander à Kevin de me mettre à l'antenne, Christophe, car j'ai mon écran qui ne marche pas, mais c'est pas grave, j'ai porté mon tournevis. Bonjour Christophe.
Bonjour à vous, bonjour les experts.
Bienvenue Christophe, bienvenue sur RMC. Vous nous appelez des Bouches-du-Rhône.
Tout à fait, de Martigues, plus exactement.
De Martigues, ça va, les intempéries, c'était pas trop compliqué ces dernières heures?
Nous, c'est la petite pluie fine qui a fait du bien.
Ah voilà, c'est ça, oui. C'est pas comme dans les Alpes-Maritimes où là, des pluies diluviennes.
Et le Gard la semaine dernière aussi, c'est pas pareil.
Exactement, tout à fait. Qu'est-ce qui vous amène, Christophe? On vous écoute.
Alors, en fait, moi, j'avais contacté l'émission la semaine dernière, mais bon, j'ai pas pu passer, mais c'était par rapport aux compatibilités des plantes. Et donc, moi, c'est plutôt sur des arbustes. En fait, nous, on a fait une haie arboricole. Vous avez pu voir les images que vous avez envoyées. Et on a un petit souci avec un troène. Alors, je sais que le troène, c'est pas la panacée ou c'est pas la super plante des jardins, mais il est arrivé en même temps que nous quand on a acheté la maison et on ne voudrait pas s'en séparer. Et on aimerait faire planter des choses dessous et il n'y a rien qui peut pousser en dessous, en fait.
Alors moi, je voudrais déjà un petit peu contester ce que vous venez de dire au niveau du troène, parce que le troène, c'est pas une plante nulle, au contraire. Surtout quand on a un troène du Japon comme le vôtre, c'est une plante quand même qui fabrique des fleurs qui sont tout à fait intéressantes à la fois pour nous, pour le parfum, mais également qui sont très mellifères. Les pollinisateurs, ils vont beaucoup.
Alors, ah oui, tout à fait, oui, je confirme.
Votre problématique par rapport à ce que j'ai vu sur les images, c'est que vous imaginez que parce que le tronc du troène s'est légèrement dégagé et donc laisse, on va dire, une sorte de volume éventuellement disponible, qu'on peut mettre là-dessous n'importe quoi, enfin même pas n'importe quoi d'ailleurs, qu'on peut mettre là-dessous des plantes qui vont prospérer allègrement. Là, il y a deux problèmes quand même qui se posent. C'est que, un, ce troène est nettement plus puissant que les autres arbustes de votre haie, et donc ça montre bien, on va dire, la force potentielle de la plante, qui peut d'ailleurs devenir un arbre. Moi, j'en ai chez moi, qui ont des troncs et qui sont vraiment arborescents. Ce troène, par sa masse, génère une ombre très importante, et seules des plantes d'ombre, des plantes de sous-bois, peuvent accepter d'y pousser. La deuxième chose, c'est aussi la concurrence effrénée qu'il va y avoir à la fois au niveau des matières nutritives du sol et également de l'eau. Donc, vous êtes dans une situation où il est assez difficile, et notamment dans votre région, d'accueillir des végétaux qui vont accepter de pousser là-dessous. Alors, pour quelle raison ? C'est parce que, en étant dans les Bouches-du-Rhône, vous avez un climat méditerranéen, que les plantes de climat méditerranéen sont quasiment toutes des plantes de soleil. Vous avez qu'à regarder au niveau des quelques forêts méditerranéennes qu'il y a, il n'y a pas grand-chose sous le couvert. Et parce que les plantes qui poussent bien à l'ombre sont des plantes qui nécessitent une moiteur, une humidité très importante.
Et donc, que nous n'avons pas, quoi.
C'est compliqué. Donc, la solution éventuelle, c'est de mettre des plantes, par exemple, en été, tout ce qui est bégonia tubéreux, tout ce qui est impatience aussi, qui aime bien l'ombre, et qui résiste, parce que curieusement, on pense souvent que ces plantes-là, il faut les arroser énormément. Si vous voulez faire crever des bégonias ou des impatiences, il faut les noyer. En mettant un bon couvert de substrat, de compost, donc un bon couvert organique sur le sol, et en arrosant quand il fera vraiment quand même chaud et sec, vous devriez réussir avec des plantes saisonnières comme cela.
D'accord.
Après, simple conseil par rapport à votre haie en général, il y a quand même un déséquilibre quand on voit la dimension du troène par rapport aux autres plantes, notamment il y a un pittosporum à côté, qui lui semble commencer à être écrasé, on va dire, par la puissance de ce troène. Donc il faut...
On va le tailler pour le taille après. Voilà.
C'est ce que j'allais dire, il faut sortir le sécateur pour faire une taille de cohabitation, de manière à ce que l'ensemble des plantes puissent quand même se développer à peu près correctement chacune. Ouais. Parce que c'est un peu la difficulté qu'on a dans les haies en mélange. Lorsque l'on ne met pas des plantes de croissance similaire, vous avez dû remarquer, un pittosporum, ça ne fait pas énormes pousses dans l'année. À côté de ça, le troène, il prospère. Donc il va falloir effectivement ajuster tout ce monde-là pour que tout ça puisse fonctionner. Donc voilà, un petit peu le conseil qui est valable pour tout le monde. Quand vous êtes en train de démarrer une haie de plantes en mélange, choisissez des arbustes dont la croissance est à peu près similaire, à moins de faire des haies à deux rangs ou trois rangs dans les très très grandes propriétés. On peut faire des haies à trois rangs avec donc les grandes derrière, les moyennes au milieu et les petites devant. Donc dans ces cas-là, oui, on peut faire ça.
Christophe, merci pour votre appel. Il est 6h18, c'est RMC. Dans quelques minutes, on va retrouver la météo. Mais auparavant, c'est le conseil de Patrick de ce samedi.
Je vais vous donner un dernier conseil avant que vous partiez.
RMC,
l'astuce jardin de Miu Miu.
J'attends ton conseil.
Alors, on va parler de terre de bruyère et de plantes, Patrick.
Oui, c'est le moment. Très bien pour les planter, les conifères et les plantes de terre de bruyère, on les plante maintenant.
Alors, le début de l'automne est la bonne période, c'est ce que vous disiez, pour planter les plantes de terre de bruyère. Mais pour commencer, qu'est-ce que c'est que ça, la terre de bruyère?
Alors, comme son nom l'indique, il y a le mot bruyère dedans, c'est le résultat de la décomposition des bruyères et même d'autres plantes qui poussent dans des landes siliceuses. C'est-à-dire que c'est vraiment dans un sol sableux que se développe la terre de bruyère. Et par exemple, les ajoncs sont aussi, ou même certaines fougères, sont aussi des plantes qui se retrouvent en décomposition dans la terre de bruyère. Donc c'est sableux, ce qui veut dire que c'est très perméable. Mmh. C'est humifère, puisque c'est de la décomposition végétale. Et surtout, c'est très acide. Et ça va permettre donc de faire pousser les plantes qu'on appelle acidophiles, celles qui aiment l'acidité, et qui sont, par exemple, les rhododendrons.
Alors, vous avez évoqué la vraie terre de bruyère, ça veut dire qu'il y a de la fausse terre de bruyère?
Oui. Dans le commerce, vous trouvez, donc, au rayon des terreaux, souvent de la vraie terre de bruyère, il y a marqué « terre de bruyère véritable » sur les paquets, ou vous avez aussi ce que l'on appelle de la terre dite de bruyère, qui est un substrat donc fabriqué industriellement à base de tourbe, de sable, d'écorce, de compost, de fibres végétales, parfois un peu de terre siliceuse. Bon, tout ça associé avec des fertilisants organiques. Alors, c'est un produit qui est tout à fait valable potentiellement, mais auquel je reproche une chose majeure, à savoir que c'est très tamisé, souvent, la terre dite de bruyère. C'est fin. Et au lieu d'être très aéré, comme ça devrait, parce que quand vous achetez une vraie terre de bruyère, dedans, il y a des bouts de bois. Il y a des choses qui sont pas encore décomposées. Donc, une fois que vous le mettez dans votre peau, même dans le sol, vous avez ces éléments qui ne se tassent pas, ça ne se compresse pas. Donc, ça vous permet une aération. Quand la terre dite de bruyère est très tamisée, vous avez tendance à avoir un compactage qui se fait petit à petit.
Patrick, quels sont les avantages, les qualités, les défauts en fait de la terre de bruyère?
Alors, une vraie bonne terre de bruyère, je viens de le dire à l'instant, c'est aéré, c'est fibreux. Donc ça va favoriser le développement des racines. Il y a un truc invraisemblable à savoir, c'est, bon, je vais vous donner notre exemple personnel. On a, il y a quelques années, fait un grand massif de terre de bruyère avec une vingtaine de mètres cubes de terre de bruyère qu'on avait mis en surélevé. Au bout de 5 à 6 ans, il n'y avait quasiment plus que des racines, c'est-à-dire un enchevêtrement invraisemblable de racines qui s'étaient développées partout, parce que c'est donc extrêmement favorable à l'enracinement. Ça, c'est très très bien. En revanche, la terre de bruyère, c'est très très pauvre en éléments nutritifs. Alors, sur les plantes qui sont bien adaptées, il n'y a rien à faire particulièrement. Mais mettre, par exemple, des végétaux un peu gourmands dans de la terre de bruyère, si vous ne les nourrissez pas, ça donnera strictement rien.
Alors, quelles sont les plantes, justement, que l'on cultive dans la terre de bruyère, Patrick?
Alors, j'ai dit le mot, tout à l'heure, plante acidophile, donc qui aime l'acidité. Ça peut être aussi synonyme de calcifuge. Qu'est-ce que veut dire calcifuge? Qui craint le calcaire. Donc, on va cultiver en terre de bruyère tous les végétaux qui ne supportent pas la présence de calcaire. Le calcaire ayant, pour certains, la particularité de bloquer l'assimilation du fer, ce qui provoque ce qu'on appelle la chlorose. Vous avez certainement tous déjà vu, alors soit des hortensias, soit des rosiers, soit des poiriers, soit même des rhododendrons, dont les feuilles sont jaunes et les nervures restent vertes. Eh bien ça, c'est caractéristique d'une chlorose ferrique. Alors, que sont donc ces fameuses plantes de terre de bruyère? J'ai dit les rhododendrons, sachez que les azalées, c'est la même chose. L'azalée est un rhododendron à petites fleurs, donc rhododendron. Vous avez les myrtilles, par exemple, hein, qui sont les calmias, les amamélis, les pieris, les andromèdes du Japon, les daphnés. Bon, il y a d'autres plantes moins connues. Bon, alors, j'ai oublié les bruyères, évidemment, mais vous avez le muguet en arbre, le Zenobia pulverulenta. Ça, c'est très, très mignon. Les calmias, c'est des plantes, les daphnés, les anchyanthus, les locotoé. Tout ça, ce sont des plantes, donc, de terre de bruyère. Et puis, vous pouvez y ajouter la plupart des fougères. Et puis, chez les plantes d'intérieur, parce qu'il faut pas les oublier, celles-là, celles qui ont besoin d'un substrat dans lequel il y a au moins 50% de terre de bruyère, ce sont les gloxinias, les caladiums, les gardenias, les bégonias, même les sympolias. Donc, il y a, d'une manière générale, d'ailleurs, les plantes exotiques aiment assez bien les sols plutôt acides.
Patrick, alors, vous avez cité pas mal de plantes, mais vous n'avez pas parlé des camélias, des hortensias et des magnolias que l'on trouve souvent classés aussi dans ce groupe.
Eh oui. Alors pourquoi? Parce que ce ne sont pas des vraies plantes de terre de bruyère. Ce sont des plantes, on va dire, légèrement acidophiles, qui préfèrent bien sûr les sols dans lesquels il n'y a pas trop de calcaire, mais elles vont se retrouver dans un sol, comme je disais, trop pauvre tout à l'heure par rapport à de la terre de bruyère pure. Et il est préférable de planter camélia, hydrangea et magnolia dans du terreau, par exemple, ou une terre normale enrichie de terreau. Alors vous avez aussi les sarcococca qui vont fleurir en hiver, là, qui sentent très très bon. Les cornouillas à fleurs, les l'auropétalum. On commence à voir ces plantes-là, elles ont des feuillages pourpres et des petites fleurs un petit peu roses qui ressemblent à des petites araignées. Et des bambous, le bambou sacré qu'on voit partout maintenant, le landina, ça aime mieux les sols légèrement acides. Donc associer éventuellement du terreau, parce que le terreau c'est toujours un peu acide. Quand vous achetez un terreau, vous voyez le pH, d'ailleurs je n'ai même pas parlé de ça. Mais qu'est-ce qui caractérise une terre? Comment on sait qu'elle est acide ou qu'elle est calcaire? Eh bien vous avez sur les sacs de terreau, Le pH potentiel hydrogène.
Et oui.
La neutralité, elle est à 7. Tout ce qui est en dessous de 7, c'est acide. Tout ce qui est au-dessus de 7, c'est alcalin. Et donc, sur la terre de bruyère, il faut savoir que le pH, il est entre 4 et 5.
Oui.
C'est extrêmement acide.
Très bien. Quelles sont les précautions particulières à prendre lorsqu'on plante, justement, une plante acidophile?
Eh bien, il faut isoler l'endroit que l'on utilise de la terre d'origine. Et pour cela, on va faire un trou assez volumineux que l'on va tapisser avec un feutre, un géotextile, pour empêcher les remontées calcaires à l'intérieur de ce sol. L'exemple que je vous ai donné précédemment, que nous avons fait et que nous avons reproduit plus ensuite, c'est plus facile, je pense, c'est de couvrir le sol avec un feutre, d'avoir une sorte de petit muret qui vous permet de surélever votre massif et à ce moment-là d'apporter de la terre de bruyère. Pour quelle raison? Parce que c'est pas un sac de terre de bruyère qui va vous permettre d'avoir une plante qui va perdurer. Non, à minima, un petit rhododendron, il vous faut au moins deux sacs de 40 litres. L'idéal serait de mettre au moins un demi-mètre cube de terre de bruyère par plante. Et ça, pour une durée de vie de 5 à 7 ans.
Mmh.
Donc, renouvelable. Et c'est plus facile de renouveler de la terre que l'on a mis en surface que quelque chose que l'on a creusé.
Patrick, il est 6h26, on revient dans un instant. Vos questions jardin sont les bienvenues. Profitez-en, hein, notre expert, votre jardinier est là, Patrick Mulan, le 32-16. Vous pouvez donc nous joindre au standard ou vous avez aussi l'appli sur votre smartphone. Vous posez votre question avec votre numéro de téléphone. Profitez-en, on peut vous retrouver à l'antenne d'ici quelques minutes. On va revenir après la météo. Patrick, et on va parler des forêts, des arbres et de leurs bienfaits. À tout de suite.
Vous allez voir, super.
Bonjour, RMC. Je m'appelle Forest.
Voyez ceci. Ça sent la forêt.
6h-7h.
Humé.
Non, merci.
Vous n'avez des poids humés, la forêt.
Personne ne se soucie des forêts à présent.
Votre jardin.
Que de la forêt
François Sorel.
Je me suis un peu attardé dans la forêt parce que j'ai cueilli des champignons. Tu vois? J'aime bien cueillir les fleurs aussi.
Patrick Mulan.
Je vais ranger la forêt.
Quand je me promène au fond de la forêt, je ne vais pas très très loin.
Il ne faut pas être loin dans la forêt. On peut se perdre.
Oui, non, mais ça c'est vrai.
C'est vrai, attention. Il est 6h31, c'est RMC, le week-end des experts et le jardin. Patrick, on va parler de la forêt, des arbres et de leurs bienfaits.
Oui, c'est un peu à l'occasion de la première édition du Festival des Forêts d'Île-de-France, là, qui a lieu aujourd'hui et puis qui a commencé hier et qui avait pour vocation, en fait, on va dire, de rapprocher le grand public de la filière forêt-bois dans la région francilienne. Mais la forêt, elle est partout en France, elle est très importante.
Comment pourrait-on définir la forêt, en fait ?
Alors, on a tendance à dire que la forêt, c'est un peuplement d'arbres. Voilà, alors ça suffit pas, parce qu'en fait la forêt ça existe pas. Vous avez des tas de sortes de forêts, entre une forêt de plaine et une forêt de montagne, entre une forêt, on va dire, tropicale, une forêt tempérée, entre une forêt de résineux et une forêt de feuillus, vous avez vraiment des choses extrêmement différentes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une forêt, même si en France on a quasiment plus de forêts primaires, c'est-à-dire de lieux qui n'ont jamais été violés, entre guillemets, ou touchés par l'être humain, c'est systématiquement un écosystème, parce que une forêt, ça génère un ensemble de vie. Sur, même un arbre tout seul, c'est un écosystème. Il y a des insectes, il y a des oiseaux, il y a des champignons.
Il y a des plantes parfois aussi.
Voilà. Vous pouvez avoir des épiphytes, des petites fougères, des lichens, des mousses qui sont autour de ça. Donc une forêt, c'est un ensemble très 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 complexe et vivant.
Alors vous parliez justement des forêts qui ont été, on va dire, façonnées par les mains de l'homme tout à l'heure. Est-ce que ce sont des espaces naturels, les forêts, tiens ?
Alors il en reste très très peu. Il y a eu une étude qui avait été faite en 2018 sur les forêts primaires européennes. Elle représente... Allez, on va dire 1 500 000 hectares sur 34 pays. En France, on a à peu près 7 500 hectares de forêts, c'est-à-dire 0,15% de la surface forestière française, qui sont considérées comme des réserves biologiques intégrales, c'est-à-dire des zones dans lesquelles l'homme n'a pas accès. Donc, mais c'est très 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 peu. Et puis elles sont mal protégées, on va dire, en France, ces forêts. Alors n'oublions pas quand même que nous avons aussi des territoires hors de la métropole, et notamment la Guyane. La Guyane représente un morceau de la forêt amazonienne avec une réserve immense qui est de 64 000 hectares, un peu plus même, en Amazonie, qui s'appelle Décou-Décou. Et là, il faut aussi la voir comme un lieu de biodiversité, mais d'une richesse extraordinaire qu'il faut protéger.
Après, on a le Vercors aussi, le massif des Maures, etc. Oui. Et du point de vue des surfaces que représentent nos forêts européennes, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, si vous prenez par exemple la forêt amazonienne toute seule, la forêt amazonienne qui est d'un seul tenant, elle fait la bagatelle de 550 millions d'hectares. En Europe, la zone européenne, faut pas compter la Russie par exemple, il y a 178 millions d'hectares. C'est-à-dire l'ensemble des forêts européennes qui sont morcelées dans tous les territoires ne représentent qu'un tiers de la surface de la forêt amazonienne. Donc ça montre que on est vraiment très très petit en Europe par rapport à ça. Mais c'est important parce que nos forêts sont très actives, sont très vivantes. La forêt française, elle est importante aussi. On fait 10% de l'ensemble de la surface boisée européenne. On est le quatrième pays européen le plus forestier. Alors, évidemment, ce sont les pays scandinaves, les premiers, la Finlande, la Suède. Mais la troisième, curieusement, c'est l'Espagne. On imaginerait l'Espagne un petit peu plus aride, etc. Non.
Il y a beaucoup de forêts en Espagne.
Alors, elle n'est pas loin de la France. Elle a 18 millions d'hectares et nous, on est à 17 millions.
On parle beaucoup de déforestation aussi. Est-ce que c'est le cas en France ?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle la déforestation. En France, on exploite la forêt. Mais on fait pas de la déforestation sauvage, c'est-à-dire que on plante plus
que l'on ne coupe. D'accord.
Il faut savoir que la forêt française, alors je parle de l'Hexagone, a doublé en surface depuis le milieu du XVIIIe siècle. On a aujourd'hui donc pratiquement 17 millions d'hectares. C'est extrêmement important et ça représente quand même 31% de notre territoire. Donc on est sur une bonne moyenne par rapport au niveau mondial global. Et cette forêt continue à se développer. On dit même que le il y a des études extrêmement sérieuses qui sont faites là-dessus. Le stock de biomasse, hein, c'est dans la forêt, c'est vrai que c'est un peu triste à dire, mais la forêt est vue comme une sorte de réservoir de bois. Donc on calcule plutôt le volume disponible plutôt que les éléments vitaux qu'il peut y avoir, mais cette biomasse, elle a grandi, elle a cru de 50% au cours des 30 dernières années. Donc ça veut dire qu'il y a une véritable politique forestière dans notre pays, sachant que donc les prélèvements de bois sont quasiment inférieurs de moitié à la production naturelle. Donc on prélève environ 48 millions de mètres cubes et il s'en produit 91 millions chaque année.
Ah oui.
Donc on progresse au niveau de la forêt, et ça, c'est très bien.
Quels sont les rôles que joue la forêt ?
Alors il y a deux... Alors, on va dire, il y a déjà le côté un peu bien-être, il y a le
oui,
côté
bien sûr.
Touristique, etc. Mais il y a deux
pour
rôles principaux.
Se promener, se balader.
Voilà, un rôle environnemental et un rôle économique.
Et les atouts environnementaux, justement, des forêts ?
Alors le numéro un, c'est le stockage du carbone, alors que ce soit des forêts européennes ou des forêts exotiques. Les forêts en France piègent actuellement l'équivalent de 15% des émissions de CO2 du pays. Pourquoi ? Bah, tout simplement par la photosynthèse. Vous savez donc que un arbre, une plante en général, donc absorbe le gaz carbonique de l'air pour constituer sa nourriture et rejette l'oxygène. La forêt joue un rôle majeur contre l'érosion des sols. On pourrait en parler par rapport à ce qui vient
bien
de
sûr,
tomber.
Bien sûr, aux inondations, etc.
Quand vous avez une forêt, c'est une véritable éponge naturelle. Et surtout, l'ensemble de l'enracinement permet de maintenir le sol. Ça s'agrippe comme ça, ça tient le sol. Vous avez une régulation de température par l'évapotranspiration. On en a déjà parlé sur l'antenne assez souvent. Vous savez donc que les plantes transpirent. Et dès que vous êtes en forêt, vous avez la sensation de fraîcheur. C'est pas quelque chose d'imaginaire. Vous avez également, lorsque vous avez un massif de forêt, même s'il n'est pas très grand, qui entoure des zones d'habitation, vous avez l'absorption du bruit. Vous avez un côté un petit peu
isolant, isolant acoustique.
Il y a un avantage comme ça. Et puis, il y a une absorption aussi de la pollution par les arbres, naturellement. Filtration des eaux, donc on disait, réduit les risques d'inondation. Et puis, cette évaporation importante. Alors là, il faut que la forêt soit grande. Ça favorise la formation de nuages. Donc on a vraiment un rôle écologique majeur. Sans oublier une réserve de biodiversité, évidemment, dont on a évoqué tout à l'heure l'importance.
Et les atouts économiques, tiens, des forêts, il y en a ?
Évidemment, on produit du bois. C'est un matériau de base, qu'on appelle du bois d'œuvre, renouvelable, et qui alimente des filières importantes. Et ce bois, aujourd'hui, on le voit comme un vrai potentiel de remplacement des matériaux de construction dont la fabrication, par exemple, si on prend simplement le béton, est beaucoup plus énergivore et polluante. Quand vous avez des constructions en bois, n'oubliez pas que vous stockez le carbone. Ensuite, on a aussi, au niveau énergétique, alors ça, c'est moins bien sur le plan des émissions de CO2, parce que quand vous brûlez du bois, vous rejetez dans l'atmosphère tout le carbone qu'il a stocké. Mais comme ce bois est renouvelable, eh bien, globalement, ça s'équilibre. Alors, c'est aussi un lieu de promenade, la forêt, on le disait, c'est aussi un endroit où on entraîne les chevaux, où on fait du tourisme équestre, c'est aussi des zones de chasse, alors ça ne plaira pas à tout le monde, mais c'est aussi des lieux donc d'activité importante.
Patrick, pour terminer, pour conclure, on parle aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, de bains de forêt aussi, mais de quoi s'agit-il ?
Alors ça, le bain de forêt, donc le Shirin-yoku, comme son nom l'indique, vient du Japon, ça a été développé depuis assez longtemps par des maîtres zen du Japon qui se sont rendus compte en fait que Alors, la proximité, même l'intimité qu'on pouvait avoir avec un arbre, est une zone de bienfait extrêmement important. Alors, il n'y a pas que cela. Il y a aussi la possibilité d'avoir une réduction de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle quand vous vous promenez, la réduction de la production d'hormones de stress. Donc, vraiment, l'inhalation de ce qu'on appelle les phytoncides. C'est quoi les phytoncides ? Eh bien, ce sont les substances que les arbres émettent naturellement pour se protéger eux-mêmes de leurs agressions. Et alors, même si les études sont encore, on va dire, assez superficielles, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc peut-être dans quelques années, on saura exactement les bienfaits et de quelle manière la forêt agit sur nous. Mais en tous les cas, si vous vous sentez stressé, si vous allez pas très très bien, faites une petite balade en forêt. Même quand il pleut, mettez des bottes et un parapluie, je peux
ça
vous dire.
Ça fait du bien.
Ça fait vraiment du bien.
Mais c'est vrai. Hein. 6h42, on revient dans un instant, Patrick, avec vos questions au 32-16 et Frédéric, qui nous attend, qui a un superbe citronnier, il aimerait le déplacer, mais il ne sait pas comment faire. Est-ce que c'est le bon moment? Tiens, on rentre dans les détails dans un instant, Patrick.
On va le faire.
Allez, 32-16, l'appli RMC Direct Studio, c'est votre jardin jusqu'à 7h, à tout de suite.
RMC, jusqu'à 7h.
Votre jardin. RMC.
Jusqu'à 7h.
Votre jardin. François Sorel.
Patrick Mulan.
6h46, c'est le week-end des experts et c'est le jardin jusqu'à 7h avant de retrouver tout à l'heure Christian PC. Patrick, de retrouver la météo du jardinier, on accueille Frédéric au 32-16. Bonjour Frédéric.
Oui, bonjour.
Bonjour Frédéric, bienvenue.
Frédéric de Marseille.
Bonjour. Oui, bonjour Patrick, bonjour François. Voilà, je vous téléphone quand j'ai un magnifique citronnier. Et le problème, c'est que je dois le changer de place. Et je voudrais savoir s'il va repartir, s'il y a des conseils à prendre,
Si c'est le bon moment aussi, peut-être aussi.
Et si c'est le bien moment, ouais, parce que alors, là, en fait, là, les citrons sont bien sortis, je dois en avoir 150. Voilà, ils sont verts, ils sont presque bientôt à maturité, quoi, dans un mois et demi.
Le magnifique citronnier, il a quelle taille?
Bah, il doit faire 2,50.
2,50
mètres. Ouais.
Bon, alors de toute façon, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que si vous le transplantez maintenant, vos citrons n'arriveront pas à maturité ou très difficilement.
Ça va, ça va couper en fait la progression
oui.
de...
Ça risque de générer une chute prématurée.
D'accord.
Parce qu'il y a un stress forcément.
Oui, bien sûr.
Bon, ouais. La période de possibilité de transplantation de l'ensemble des végétaux du jardin commence à peu près maintenant, on va dire vers le 15 octobre, on va être dans une période suffisamment d'arrêt végétatif pour que les plantes supportent la transplantation. Dans le cas du citronnier, ça serait beaucoup mieux d'attendre la fin de la récolte, c'est-à-dire de faire ça dans le courant du mois de février, par exemple, si c'est possible.
Malheureusement, non.
Donc vous le fassiez absolument maintenant.
Ben en fait, j'avais un cabanon, il était planté là, et en fait, comme je vais agrandir, j'ai besoin de place et je peux pas attendre.
Si vous pouvez pas attendre, de toute façon, vous étonnez pas si les fruits tombent, mais peu importe. Vous allez faire la chose suivante. Vous allez faire le nouveau trou de plantation, bien sûr, avant d'arracher votre citronnier, de manière à ce que l'arbre soit le moins de temps possible hors du sol et se retrouve le moins possible stressé.
Bon. Ah oui, tiens. Et il faut que je fasse une profondeur de combien à peu près?
Bah là, ça va dépendre. Il fait 2,50 m de hauteur. Vous allez creuser 80 cm si possible.
Oui, non, mais la terre, elle est vraiment. C'est pour ça qu'il est magnifique. Parce que la terre, elle est. Je n'ai même pas besoin de plocher. Hein, avec la pelle, j'ai juste à appuyer sur la pelle, la terre, elle se lève facilement. Quoi.
Bon, en revanche, vous allez voir qu'un arbre de 2,50 m de haut, ça ne se lève pas facilement. Ça va vous faire quelque chose de très, très, très lourd et vous ne pourrez pas le faire tout seul. Parce qu'il faut absolument que vous fassiez une motte importante. Alors, la motte, la taille de la motte doit être normalement prise de la façon suivante. Vous prenez un mètre à ruban et vous allez regarder quelle est la circonférence du tronc. cette dimension que vous allez obtenir va vous donner le rayon de votre motte. Si par exemple vous avez 10 cm de circonférence, il faudra faire au moins 10 cm de rayon. Ça me semblerait pas beaucoup. C'est-à-dire que globalement, sur 2,50 m, je ferais quand même une motte qui fasse, oui, 80 cm de diamètre et 80 cm de profondeur. Ce qui fait un poids considérable de l'ordre de 300 à 500 kilos. Donc vous n'allez pas pouvoir sortir ça tout seul. C'est la seule chose qu'il faut voir. Derrière ça, bien sûr, vous allez noyer complètement votre citronnier, de manière à ce que vraiment il soit dans les meilleures conditions possibles pour avoir des radicelles nouvelles qui vont s'ancrer dans le nouveau sol. Mélanger un peu la terre d'origine. Bon, vous me dites qu'elle est parfaite. On met toujours un petit peu de matière organique. Vous pouvez aussi mettre de la canne torréfiée au fond du trou, parce que c'est un engrais de fond qui permettra à la plante d'avoir des réserves nutritives pendant sa reprise.
Eh bien voilà, Frédéric, bon courage. 7h-10, il est temps d'en trouver la météo du jardinier. Patrick, vous avez jeté un œil sur les cartes de Météo France pour les jours qui viennent.
Oui.
C'est arrosé encore, hein?
Alors, oui. On dit un truc qui est pas du tout d'actualité. On est à la Saint-Gérard. Plus rare à la Saint-Gérard, l'hiver sera en retard. Donc là, plus abondante à la Saint-Gérard, l'hiver sera peut-être là. On ne sait pas.
Ouais.
Alors, bon, il faut dire la chose suivante. Nous sommes dans une configuration de vent d'ouest-sud-ouest qui nous apporte, vous avez pu le constater dans toutes les régions, de l'eau. Et ça va rester comme ça avec des vents qui sont quand même relativement présents. Au moins jusqu'à jeudi, on aura entre 40 et 60 km/h de vent. Donc vraiment, en permanence, vous allez avoir des averses qui vont succéder un petit peu partout. C'est vraiment pas une semaine de jardinage. A priori, vendredi, ça devrait s'être calmé. Et on aura des températures qui se seront légèrement améliorées. Les matins, dans la moitié nord, risquent en général d'être en dessous de 10 degrés. Donc pour tous ceux qui cultivent des tomates, des poivrons, tout ça, vous allez voir, il y a vraiment un blocage de végétation. Donc le mieux, c'est de récolter déjà toutes les tomates, tous les fruits que vous avez, de façon à les mettre à l'abri et les laisser se développer et puis mûrir petit à petit. Idem au verger, où là, les pluies, l'humidité importante qu'on a favorisent le développement des pourritures et tout ça. Donc, récolte, on sèche bien les fruits avant de les entreposer, on vérifie qu'ils ne sont pas abîmés parce qu'on ne met en conservation que les fruits qui sont absolument impeccables. Sinon, il n'y a pas grand-chose pour le jardinage qui va être agréable à faire. Laissez la terre bien s'imbiber et dès que le temps sera meilleur, ça sera la bonne période pour effectuer pratiquement tous les types de plantations.
Patrick, on sait qu'il y a eu des pluies diluviennes dans le sud-est avec des conséquences dramatiques. Pour tous ceux qui ont des jardins et qui ont été inondés ces dernières heures, qu'est-ce qu'on peut faire ?
Alors, s'ils ont été inondés sans être ravinés ou s'ils sont encore inondés, il n'y a rien à faire, évidemment. Vous allez laisser l'eau s'imbiber dans le sol.
Ouais.
Pour les parties qui ont été ravinées, malheureusement, il faut remonter la terre quand on peut la récupérer ou alors il va falloir refaire des apports de terre. Ça montre aussi que les paillis permanents seraient aussi des bonnes protections parce qu'il est évident que si vous avez une couche de paillage d'environ 7-8 cm jusqu'à 10 cm, eh bien l'eau va d'abord aller sur ce paillage, peut-être l'entraîner avant de raviner la terre. Ça aussi, dans les terrains qui sont un peu en pente, le paillis, pour moi, c'est quand même quelque chose qu'il faut mettre en œuvre, absolument. Sinon, on est à une période qui n'est pas quand même dramatique au niveau des végétaux. Bien sûr, il y en a qui ont été arrachés. Alors si, faites très attention, s'il y a eu un peu de ravinement, de vérifier la solidité de l'ancrage de vos arbres. Si vous avez des arbres, notamment en terrain en pente, et s'ils ont bougé ou s'ils sont penchés de plus de 15 degrés...
Ouais, c'est pas bon.
C'est pas bon, il faut les étayer, il faut faire attention.
Patrick, on a un petit peu débordé, on n'aura pas le temps pour nos coups de cœur cette semaine, mais on les retrouvera évidemment samedi prochain.
Pas les mêmes, parce que c'était des fêtes des plantes, mais on vous les mettra peut-être sur l'internet, là j'espère avoir le temps de vous le faire.
Patrick, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Vous le savez, 6h-7h sur RMC.
La bise à toutes les jardinières et ma petite jardinière, ma petite perle aussi, qui est un chien génial. Et puis un grand bonjour à monsieur Christian Pesset.
Bonjour monsieur Mulan. Moi j'ai un nouveau petit chat.
Oh. Ah, comment s'appelle-t-il ?
Il s'appelle Émile.
Émile ! Émile le chat.
Il est quelle couleur, Émile ?
Alors, il est feu et avec du blanc. Il est mignon comme tout. Il a un peu peur parce que. Ben il est arrivé à la maison bien sûr. Jeudi. Alors donc,
c'est un bébé. Ah oui, il est tout petit.
Non, il a un an.
Ah oui.
Mais c'est une dame qui donne à la 7 chats. Alors donc elle en donnait un.
Christian, dites-moi, est-ce que vous l'avez déjà briefé concernant la rénovation et ma prime rénov à votre chat?
Mais oui, justement, je lui explique.
Vous lui avez tout expliqué.
Tu es dans une véranda pour l'instant. Tu es très bien, mais tu vas pouvoir intégrer la maison et te mettre sur le radiateur comme tous les chats.
Plus sérieusement, dans un instant, Emmanuel Vargon, ministre du Logement, sera avec nous pour nous exprimer, pour nous expliquer en fait tout ce qui se passe en matière d'aide à la rénovation énergétique. C'est passionnant, très intéressant. On est tous concernés. On en parle dans un instant. 32-16 pour toutes vos questions après la météo et les infos. À tout de suite.